Salut les garçons.
Salut Charlie.
Allez, on réécoute l'émission de vendredi.
Eh ben c'est bon. Fait.
Ah ouais.
Bah oui. Alors s'il y a un truc à améliorer, voilà. C'est peut-être.
Ah bah non, madame, moi je vois pas. Hein.
Ah
ça,
si
c'est...
si si. Ta première question.
Voilà, important ça.
C'était pas pertinent.
Ah c'est pas un problème de pertinence.
Pas du tout.
Alors,
on va la réécouter ensemble, entièrement, pour bien débriefer.
Alors que vous déposiez une fleur,
voilà,
toute la France vous a vu avec votre message.
Tu présentes un peu l'invité.
Je prends mon temps, mais je voulais mettre à l'aise.
Voilà. Ça, elle avait l'occasion d'être à l'aise.
Oui, je pense que
ça aurait pu faire une micro sieste.
Mais enfin, pas du tout.
Alors et puis il y a un moment où on va bien entendre.
Voilà, tu baisses la voix.
Voilà, on croit que ça se termine, écoute.
C'est assez peu commun, finalement.
Et tu repars.
C'était pour être sûr que ce soit bien clair.
Ah non, mais c'est pas un reproche qu'on te fait.
C'est pour que tu progresses. Hein.
Voilà, et là encore, on sent que tu pourrais mettre un point.
Ouais.
C'est symptomatique aussi de notre époque.
Et non, il voilà. n'y a pas de point.
Voilà. Ça va, merci. Je pense qu'on a compris.
Ah, ben c'est sans doute ce que c'est dit l'auditeur, mais
on va attendre la fin.
On est dans une société d'image. De chercher quelqu'un qui vient de parmi nous.
C'est long.
Voilà. Hop, voilà, 41 secondes.
On y est. Donc, alors. Peut-être aujourd'hui. Le mieux pour aujourd'hui.
Vous inquiétez pas, je vais faire efficace.
Alors voilà, autour d'une quinzaine de secondes.
Voilà, comme ça, ça laisse du temps de parole à l'invité.
Ah bah, même pas 10 secondes. Hein.
Ah bah nickel. Parfait. Alors, qu'est-ce que tu fais?
Là, j'écris ma première question.
Ah,
là.
Qu'est-ce que c'est?
Attention, préparez-vous.
Alors vas-y, on y va, on est prêt.
Ça va?
Ah, c'est cool.
Ouais, ah ouais. Cool.
Ah c'est efficace.
Essentiel.
Ouais. Ce qui est bien avec toi, Charline, c'est qu'on sent que tu progresses vachement vite.
Ah oui.
Moins de 2 secondes.
Ah oui, c'est vrai.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up du service public et voici les trois informations qui sont arrivées à un accord avec le syndicat de la blague. Les députés ont adopté la loi alimentation en dessinant les contours de notre assiette, notamment celle dans les cantines. Les poussins seront toujours broyés, mais cette fois, ce sera bio.
En toute façon, ça sert à rien, c'est adopté. Ce sera saucisse lentille à la cantine à midi. Voilà.
Le ministère de la Culture s'attaque à la fracture culturelle entre Paris et les régions, car il existe pour l'instant des zones blanches. Bref, pas de proximité, pas d'accès à la culture.
Là-bas, il y a la mairie. Au bout, là, il y a la poste. En face, il y a la salle des fêtes, mais il n'y a plus de fêtes.
Le peignoir serait devenu le comble du chic. Il enveloppe les rockers à la fin du concert, il emballe les boxeurs. Et depuis qu'une chanteuse est venue chanter aux MTV Music Awards en serviette éponge, alors là, il n'y a plus qu'un pas entre la salle de bain et les podiums.
Excusez la tenue, je sors de la douche.
Non.
Lui, on l'imagine plutôt en robe de chambre,
oui.
En soie.
Oui, il y a de ça. Je me réveille d'une sieste.
Comment allez-vous?
Vous voulez une belle équipe?
Oui.
Ça tombe bien, c'est ça que j'ai aujourd'hui. À 17h20, celui qui, s'il était une pâtisserie, ne serait pas une madeleine, mais un éclair. Tant ça va vite dans sa tête. C'est Hippolyte Girardeau, bonjour.
Bonjour.
Voilà, de quoi on va parler?
Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Transistor Radio, puisque Pierre Bellemare nous a quittés. Mais Pierre Bellemare n'est pas mort. Non, il nous a laissé une de ses fameuses histoires extraordinaires, vraies ou fausses, à vous de juger.
C'est vrai que vous êtes un héritier évident. 17h30, celui qui, s'il était une pâtisserie, serait une forêt noire, car quand ses interlocuteurs se perdent dans leur rhétorique, eh bien, il se retrouve vite dans le noir. C'est Guillaume Meurice, bonjour.
Bonjour à tous. Moi, je me suis intéressé à un sujet important, l'amendement chocolatine. Proposé par un député, ça fout la merde. Proposé par un député des Républicains, voilà, pour protéger l'appellation chocolatine par rapport au pain au chocolat, et ça se passe mal.
On veut beaucoup de cette semi-guerre civile que j'ai déclenchée.
Hey, la France a peur.
Et enfin, à 17h40, le mon chéri de la chronique littéraire, c'est Juliette Arnaud. Oui. Bonjour.
Bonjour.
De quoi on va parler?
Alors aujourd'hui, est-ce que vous savez, Alex, ce que veut dire cosmologie?
Ah non.
Eh ben moi non plus avant ce livre. Mais maintenant
va
je sais.
Des choses.
Et je rappelle que vous pouvez nous regarder en streaming sur franceinter.fr bien sûr.
Parce qu'on est beau. Enfin, pas tous, dans une grande majorité quoi.
Ah, planquer les bouteilles de bière, on est en streaming.
Ah oui,
attendez,
oui.
Non, c'est bon. Alors, je me tourne vers celle qui va enjailler l'open space. Vous êtes d'abord institutrice lorsque vous découvrez qu'il y a un personnage en vous. Vous entrez alors au conservatoire de Besançon dont vous sortez avec un premier prix. Vous devenez auteur, metteur en scène, interprète. Vous tournez pendant plus de 30 ans avec le personnage la Madeleine Proust. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Lola, c'est Mona.
Oh yes. Oui.
C'est son vrai nom. Masqué.
Charline, Alex Vizorek, par Jupiter.
Ça va? Bonne question.
Ah ben voilà, ça bien c'est préparé. Intéressant. Voilà.
Super bien, moi je suis shootée à la saucisse et au comté. Alors, comme je fais des questions trop longues, je vais laisser à Guillaume Meurice qui connaît bien votre œuvre. Girardo, merci.
Non, mais court,
merci du
bien.
Support, merci du support.
Moi je suis hyper ému parce que c'est mon idole de jeunesse, Lola Semonin, oui. La Madeleine Proust c'est évidemment.
Vous avez été jeune, Guillaume ?
Oui, et j'avais même des cassettes audio de la Madeleine Proust que je connaissais par cœur.
Il y a la jeunesse qui retombe.
Oh là 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 là, il y a plus de cheveux blancs, mais j'ai regardé le DVD, donc il y a un DVD 30 ans de scène. Ouais. J'ai regardé avec beaucoup d'émotion. On retrouve évidemment le personnage. Donc pour ceux qui vous connaîtraient pas encore, il y en a pas beaucoup, mais on va expliquer. C'est un personnage une vieille franc-comtoise, on va dire, qui monologue dans sa cuisine en faisant à manger avec des punchlines de Madeleine Proust, la plus célèbre. Quand on voit ce qu'on voit.
Et quand on sait ce qu'on sait, on a bien raison de penser ce qu'on pense puis de ne rien dire.
Et ça, on retrouve.
Mais il y a encore mieux. Il y a encore mieux. C'est avec tout ce qu'on. Avec tout ce qu'on entend puis qu'on nous dit pas. Elle est fine, celle-là.
Il y a le bon sens populaire qu'on retrouve. Et moi, j'ai regardé avec beaucoup d'années de plus et avec un œil un peu plus acéré sur l'actualité. J'ai découvert une Madeleine Proust politique. À un moment donné, vous parlez quand même de Chavez dans le spectacle. Ça m'a intrigué. Qu'est-ce que la Madeleine Proust a à dire de Chavez sur scène ?
Elle cite son neveu, en fait.
Oui, voilà.
Voilà, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand je l'ai écrit il y a 4 ans, c'était quand même intéressant de savoir qu'à cette époque-là, Chavez avait décidé de partager les bénéfices du pétrole avec le peuple. Donc c'était un petit clin d'œil.
Est-ce que la Madeleine Proust est de gauche ?
La Madeleine Proust, elle est très influencée par sa nièce.
Ouais, c'est ça.
Aujourd'hui. C'est-à-dire que dans le premier spectacle, il y a 30 ans, elle était carrément réac. Dans le spectacle avec la ferme et les poules, où j'ai joué pendant très longtemps à Paris, je l'ouvrais un peu sur le monde. Et dans le troisième spectacle où elle faisait le tour du monde, évidemment là elle côtoyait tout d'un coup l'Afrique, le Maghreb, les Mexicains. Ils sont tellement loin qu'on dirait qu'ils sont petits. Non, ils sont tellement petits qu'on dirait qu'ils sont loin. Non, mais j'ai beaucoup de mal à faire la Madeleine quand j'ai pas ma perruque.
Ah oui, c'est ça. Oui, il y a un costume.
Faut
oui,
déjà que je visualise.
C'est pas une perruque.
Oui, je voulais savoir juste une petite question comme ça, technique quasiment, mais est-ce que cette Madeleine parfois ne vous échappe pas ? En fait, quand vous écrivez, quand vous l'improvisez, finalement, vous la suivez, vous l'écoutez plus que vous ne la faites parler.
Oh, ça c'est fin.
Oui, c'est fin.
C'est intelligent. Non, mais c'est vrai que des fois, c'est vrai que les mots arrivent avant ma vraie pensée, quoi. En fait,
oui,
comment
le personnage
dire
vous échappe, c'est ça que je voulais dire.
Oui, c'est ça. Mais par exemple, quand je suis sur scène en Madeleine, il peut arriver n'importe quoi. Mettons un incendie, je ne réagirai qu'en Madeleine. Je suis tellement dans la peau de cette Madeleine, et s'il se passe quelque chose au moment où je suis sur scène, c'est vrai que c'est elle qui va réagir avant moi. C'est ça, en fait, que vous voulez dire.
Oui, c'est tout à fait ça.
Le personnage réagit avant l'auteur.
Quand on passe 30 ans avec le même personnage, à un moment donné, c'est elle qui vous tape sur l'épaule, genre, allez, Lola, tu m'écris un truc, là, j'ai pas que ça à faire.
Voilà. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans le DVD. Il y a un bonus où on vous voit dans une tournée africaine. Et alors, on se dit, la Madeleine Proust, ça peut être parfois très local. Il y a des expressions très locales, notamment la pelachni. Est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce que c'est la pelachni pour des gens qui ne sont pas franc-comtois?
Donc, quand vous ramassez la poussière, que nous appelons le chenil, sa pelle n'a plus de queue. Parce qu'elle a été cassée.
Voilà.
Elle dit, elle est foutue, cette pelachni. Il faut que j'y fasse mettre une queue.
Et alors, on se dit, finalement, en Afrique, les gens ne vont pas comprendre. Et on voit très bien que, finalement, est-ce que tout ce qui est personnel est très universel, comme dirait Charlie Chaplin?
Ah, mais ça, c'est sûr. Mais de partir du particularisme, on va à l'universel. Hein. Si Pagnol n'avait pas mis l'accent dans ses films, il ne serait pas étudié dans les facultés des États-Unis. Et moi, je le savais quand je l'écrivais, quand même, que d'aller chercher des racines, j'allais aller vers cet universel. Là, ça c'est sûr, je le sentais, je le savais. Les gens du Haut-Doubs, ah non, ils me disaient, oh bah vous avez de la mémoire. C'est moi, pendant un an j'ai fait un boulot d'ethnologue, j'ai interrogé les paysans, j'ai pris des notes, pendant un an je n'ai lu que le journal L'Est Républicain, je me suis immergée complètement.
Oh, comme Laurent Wauquiez.
C'est le seul point commun, je pense.
Je me suis immergée complètement.
Et les cheveux.
Non, je ne vais pas dire que j'avais perdu des mots de vocabulaire, ce ne serait pas gentil pour eux, mais pas loin. Et en fait, oh ben ça y est, je suis déjà
ethnologue. Non, mais oui, vous avez
ethnologue.
Ah oui, ethnologue.
Ouais, ethnologue, ouais.
J'étais partie où, puis je redescends bas, là.
Et maintenant, la Madeleine Proust, elle découvre les nouvelles technologies, les réseaux sociaux.
Alors, dans ce spectacle-là, j'ai voulu reprendre le décor de la cuisine comme à ses débuts, mais j'ai voulu faire des grands écarts avec le temps passé. on n'avait rien, puis on faisait avec. Et puis, ces nouvelles technologies, il y en a une qui est bonne, et je l'ai trouvée dans un courrier des lecteurs. Quand on les voit faire leurs devoirs, les écouteurs sur les oreilles, un œil sur la télé, l'autre sur l'écran de l'ordinateur, la main sur les SMS du portable, mon voisin, la Rissé, il me dit « Comment ça se fait que les fabricants n'ont pas encore pensé à leur mettre une clé USB dans le cul ?»
Voilà, le bon sens populaire.
La Madeleine Proust, qu'on retrouve donc en DVD, hein, les 30 ans de scène, écrit, joué, mis en scène par Lola Simonin, la vraie Madeleine Proust. Et puis, c'est un personnage que vous connaissez tellement. Vous avez aussi vous écrivez une trilogie. Il y a deux livres qui sont déjà sortis. La Madeleine Proust, Une vie, les années 39-40, Ma drôle de guerre, édition Pygmalion. Le deuxième tome, c'est 1925-1939, quand j'étais petite. Et le troisième tome est en préparation. Et puis, à l'Olympia, le 3 juin prochain, avec en première partie Monsieur Fraise.
Oh là là, la
avec la Madeleine Proust, c'est parti pour rester. Et là, en attendant, pour faire plaisir à Juju, Arnaud, The Clash.
Belfort, yeah. Colline. Ça, ça va.
The rain, the crunch of thing, the ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going thin, engines stop on him, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone, forget it brother, you can go it alone, London calling, to the zombies of death, quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stuck on it, the wheat is going thin, a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning.
Juju a une suée, Hippo aussi.
Belfort is calling.
La Madeleine Proust est avec nous jusqu'à 18h. Lola Simonin, qui sera à l'Olympia le 3 juin prochain, avec en première partie Monsieur Fraise, qu'on aime beaucoup aussi. Et pour entourer, je l'ai un petit peu dit, hein, la Madeleine Proust.
Oui, mais il y a Guillaume et oui, Maurice, c'est vrai. Qui est comme un enfant. Oui. Et puis, les deux autres, vous les avez cités, ils n'auront pas deux fois leur nom.
Et place à l'information.
Oui, bonjour Monsieur Sarkozy.
C'est... Le journal de presque 17h17.
Et on commence par les titres.
L'homme qui a sauvé un enfant suspendu à un balcon Mamoudou Gassama va être naturalisé français et intégrer les pompiers.
Et c'est bien la preuve que l'ascenseur social ne fonctionne pas puisqu'il a dû escalader 4 étages à main nue.
L'Assemblée nationale a refusé d'interdire les publicités alimentaires peu saines qui visent les enfants.
Oui, comme quoi quand il s'agit de sauver des enfants, on peut moins compter sur les députés français que sur des sans-papiers maliens.
Et les brèves.
Oui, j'ai moi-même sauvé une brève pendue à un balcon très Samon.
Et pour ça, on va vous retirer vos papiers.
Et on commence bien sûr par un hommage.
Ce week-end, on a appris le décès de Pierre Bellemare à l'âge de 88 ans. La date de son inhumation n'est pas encore connue.
En revanche, pour le cercueil, je peux vous conseiller ce magnifique coffre en bois, un très bel objet, avec sa doublure matelassée. Regardez cette charnière, au prix modique.
Calmez-vous, Pierre. Passons à l'actualité des vivants avec Mamoudou Gassama, qui va être donc naturalisé français.
C'est marrant parce que pour cette ascension-là, on n'a pas vu beaucoup de premiers de cordée disponibles.
C'est pas faux.
Oui, alors, mais la bonne nouvelle, c'est que pour cette ascension-là, aucun identitaire en doudoune bleue n'a essayé de l'en empêcher.
Et tout le monde était unanime, il fallait lui donner la nationalité française.
Et oui, même le Front National était d'accord. Alors, petite condition, Camille Nicolas B, voilà, mais presque rien.
Si on nous dit que... on régularise celui-là en raison de son acte de bravoure et qu'en contrepartie on expulse tous les autres, moi je signe.
Ouais, c'est quasi rien. Allez, pour une fois, il tend la main. On est jamais déçu.
J'avais pas vu venir.
On n'est jamais déçu. Et Caroline Roux tente d'en savoir plus. On y était presque avec Nicolas B.
Vous voulez le renvoyer chez lui?
Moi, je crois qu'il faut, d'une manière générale, renvoyer.
Il n'arrive pas. Revenons à ce week-end.
Oui, moi, je me disais, pour être aussi musclé, pour escalader autant d'étages, c'est certainement quelqu'un qui a traversé la Méditerranée à la nage. Comme beaucoup. Et lui, on l'a pas rejeté à la mer, comme les autres.
Justement, on va y revenir tout à l'heure avec cette actualité. Mais donc ce week-end, après la marée populaire de samedi qui a rassemblé 93 000 manifestants dans toute la France, Jean-Luc Mélenchon déclare que la marée fera des petits.
Et qu'est-ce que c'est que des petits de marée? C'est des mares, peut-être des palettes, des plaques, on sait pas.
Et dans le cortège, une affiche d'Emmanuel Macron habillé en nazi a provoqué l'indignation.
Oui, c'est pas cohérent de comparer Macron aux nazis parce que au moins les nazis, tout le monde avait compris leur projet.
Droit très présent.
Oui, pardon. Valérie Pécresse est choquée.
J'ai été profondément choquée par le propos du président de la République sur les mâles blancs. Je suis une femelle blanche.
Voilà, la femelle blanche vous salue. Passons à l'international.
États-Unis, l'état d'urgence est décrété dans le Maryland après des inondations dévastatrices.
Oui, plutôt que de vouloir construire un mur à la frontière avec le Mexique, Trump aurait mieux fait de construire des digues dans le Maryland.
Et puis cette belle histoire, un bébé prénommé Miracle est né en Méditerranée à bord de l'Aquarius, le bateau de SOS Méditerranée. Miracle, très joli comme prénom.
Oui, c'est joli, mais vu ce qu'il attend dans la France de Gérard Collomb, peut-être il aurait dû s'appeler Bon Courage.
Toujours en France, ce week-end, la grêle a ravagé une partie du vignoble bordelais.
Oui, Jean-Vincent Placé a demandé 3 jours de deuil national.
Sport et rugby avec l'Afrique du Sud qui nomme son premier capitaine noir pour un test match.
Et oui, apparemment, il serait incapable de monter 4 étages de balcon. Il a eu le job quand même, donc chapeau à ce bonhomme. Ouais.
On passe au bref.
Oui, pour échapper à la justice, un cambrioleur se camoufle pendant 5 mois dans un bois de la Vienne.
5 mois ?
Bof, aurait déclaré Xavier Dupont de Ligonnès.
Et la dernière,
Bondy. Les dealers livrent par erreur 70 kilos de cannabis à des policiers.
Oh là, mais non,
c'est la boulette. Ils ont converti deux commandes. C'était 70 kilos de picombière et pas de cannabis.
17h25 sur France Inter.
La tête du policier, ben merci.
Par Jupiter. Lola Semonin est avec nous, la Madeleine Proust. Et on va aborder avec vous ce premier sujet. D'ailleurs, vous n'êtes pas venu les mains vides.
Oui, parce que là, je pense que je peux vous décerner mes dépris après ce qui s'est passé là, avec ces brèves.
Alors attention.
Donc, comme j'ai le sens de la hiérarchie, le premier prix est attribué à Charlie.
Qu'est-ce
que j'ai gagné?
C'est un Jésus de Morteau et du Comté.
Jésus.
Alors attendez, pendant que vous distribuez, je vais lancer le sujet. Je lance le sujet pendant la distribution.
Le deuxième prix qui est un peu plus petit, c'est pour Alex.
C'est normal, c'est la souffrance animale.
Je sais pas si l'auditeur peut sentir. J'approche du micro comme ça l'auditeur peut sentir.
Qu'est-ce que vous avez pour Guillaume? Je suis très curieux.
Attendez, je lance le sujet. L'Assemblée donc a passé le week-end sur la loi alimentation. 50% de bio dans les cantines ou l'obligation du doggy bag dans les restaurants, mais avec du glyphosate dans le doggy bag. Et du poussin broyé, si vous ramenez des restes de poulet. Bah oui, si, parce que la loi alimentation n'a rien changé à ce niveau-là. Alors, ce qui nous donne envie de dire aux députés, la prochaine fois, mêlez-vous de vos oignons plutôt que des nôtres.
Olivier, mon petit garçon, essaie de réfléchir 5 minutes. Je suis député dans un département agricole. Est-ce que tu peux imaginer ce qui se passerait si la presse de droite apprenait que chez moi, on jette le bœuf, le foie gras et le vin à la poubelle?
Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait d'être député? Le fait de faire des choses utiles pour les gens ou le fait d'être dans le fromage et d'en profiter? Mais regarde ce que t'es devenu! Tu t'intéresses plus à ce que pense la presse de droite qu'à la santé de tes propres enfants!
Ah oui? Et si je ne suis pas réélu?
Mais qu'est-ce qu'on en a à fiche que tu sois pas réélu? Tu vois pas comment les gens sont malades de plus en plus jeunes? Non! Tu t'en fous!
Tu es un idéaliste, c'est très bien. Mais il y a des réalités économiques derrière la pollution. Il y a des éleveurs, il y a la concurrence.
Et alors ? Faudrait tous qu'on s'intoxique pour que les éleveurs puissent continuer à faire du fric sur le dos de la santé des gens et surtout qu'ils continuent à voter pour toi. Mais qu'ils crèvent les éleveurs et leur viande pourrie, ben qu'ils se la gardent.
Et c'est bien amené pour ce qu'a amené Jeanne Proust. C'est un extrait de La Crise de Colline Serrault, bien sûr. Alors, je pose la question à qui ? À Lola ou à Madeleine ?
Ah bah ça, c'est du bon porc, bien gras, okay, sans glyphosate. Alors Hippolyte,
oui.
Une plus petite parce que t'as encore pas beaucoup entendu.
Attendez.
Juliette, elle va même pas parler du roman La Madeleine Proust une vie. Alors une petite saucisse, il faut la cuire 20 minutes à la grande eau, puis il faut pas la piquer.
Et Guillaume.
Et puis Guillaume.
Eh ben, il y en a de la saloperie là-dedans, dis donc. Sel, saccharose, dextrose, poivre conservateur, du bon cancer.
Ben alors, c'est un bon filet garni, ça. C'est pour toi quand même.
Et alors, moi, vous m'avez amené quoi ? C'est énorme.
C'est du comté, du bon comté. De Juraflore, du Jura, quoi.
C'est extraordinaire.
Ben oui, ben c'est le gros, là. D'abord, tu peux échanger ta saucisse contre du comté.
J'ai l'habitude d'échanger.
Et donc, le sujet, c'était quoi ? Parce que moi, ça m'a échappé.
Le sujet, justement. Parce que le sujet, la Madeleine Proust, elle en pense quoi des députés donc, qui s'occupent de notre assiette et de notre alimentation ? Parce qu'à un moment, il y a quand même des abus, il faut légiférer.
En fait, pour faire écho à ce que me disait tout à l'heure Hippolyte, il y a quelque chose qui a surgi comme ça dans mon écriture pour la Madeleine. Quand on voit sur les emballages « sans sucre, sans nitrite, sans sulfate, sans colorant », eh bien, ça veut dire qu'avant, il y en avait.
Effectivement. Mais j'imagine que ça, c'est quand même une de vos préoccupations. Là, je parle à Lola Semonin.
Oui.
Vous disiez, j'ai fait un travail d'ethnologue. C'est vrai que vous discutez beaucoup avec les paysans, vous connaissez bien la campagne, ces milieux-là, etc. Donc j'imagine que c'est un sujet qui vous tient à cœur, la bonne bouffe.
Ouais, c'est délicat de parler avec eux.
Oui.
C'est délicat. Bon, on a de la chance parce que dans le Haut-Doubs, c'est la seule, la Franche-Comté, c'est la seule, une des seules régions, je crois, qui a créé des coopératives pour le comté et qui impose le prix du lait et le prix du comté aux grandes surfaces. Mm-hmm. Et donc, ils ont une charte, il y a des exigences. C'est pas Lactalis. Hein, ça déjà, on est un peu plus fiers de nos produits. Quoi.
Ça, au niveau régional, c'est autorisé de faire ça.
En Franche-Comté, eux qui ont réussi à monter des coopératives. D'ailleurs, j'incite toutes les associations de produits de France à s'associer aux coopératives, à imposer leur prix aux grandes surfaces au lieu de l'inverse, quoi. Donc voilà, la partie militante est terminée.
Et puis sur scène, vous déplumez une poule à la flamme et vous préparez une soupe de légumes dont le fumet emplit la salle. Hein, donc ça tient une part quand même importante aussi.
C'est parce que je vais toujours à la recherche des petites Madeleines de Proust quand j'écris un spectacle. Donc dans celui-là, il y a la soupe. D'ailleurs, à un moment, j'entends une rumeur gonflée dans la salle et je sais que tout le monde dit « ça sent la soupe, ça sent la soupe, ça sent la soupe ». Et je fais un gâteau aussi. Et c'est juste calculé pour qu'il soit cuit au bon moment. Donc, à l'Olympia, il ne faudrait pas que les gens rient trop longtemps.
Le
gâteau pourrait être brûlé.
Très bien. Eh bien, écoutez, il va peut-être mériter une plus grosse saucisse, cet Hippolyte Girardot.
Je ne sais pas qu'en penser de cette réflexion.
Puisqu'il va faire sa chronique.
Pourquoi tu me comme ça, Juliette ? Oui, alors écoutez... Bon ben voilà. Oui,
un petit vin jaune, Hippolyte.
Oui, tout à l'heure.
Vas-y, lance-toi.
Donc, comme je le disais, Pierre Bellemare nous a quittés, mais Pierre Bellemare n'est pas mort. Et il nous a laissé une chronique. Le 26 mai 2018, dans une rue passante d'un quartier nord de la capitale parisienne, eut lieu un événement considérable. Considérable, eu égard aux conséquences telluriques sur la République française dont l'impact aujourd'hui encore se fait sentir. Jugez plutôt. En plein après-midi, alors que la foule baguenaudait dans cette rue passante, un bras se dressa vers le ciel. Aussitôt, par un réflexe humain tout à fait naturel, la foule leva la tête dans la direction qu'indiquait le doigt. Un cri d'horreur parcourut l'assemblée. Au-dessus d'eux, au quatrième étage d'un immeuble moderne, d'une petite main tremblante s'accrochait à la rambarde, en aluminium pour être précis, la rambarde, un enfant. Oui, un enfant. Un petit enfant qui ne devait pas avoir plus de 5 ans et était suspendu dans le vide. Tout le monde attendait le drame. On criait. Appelez les pompiers. Non, appelez le SAMU. Ils viendront pas. Appelez directement les services funéraires. On entendait, mezzo voce, des réflexions tendancieuses. Bon, est-ce qu'il va lâcher ou pas ? J'ai pas que ça à faire, moi. Oh, il s'accroche, le salopio. Regardez-moi ça. Le loyer doit être bonbon. Vous avez vu ces balcons ?
Le Parisien aime commenter, c'est à ça qu'on le reconnaît. Et c'est alors qu'une scène stupéfiante se produisit sous les yeux d'une foule saisie d'effroi, mais reconnaissons-le, tout autant d'excitation. Un quidam bien inspiré s'empara alors de son téléphone smart muni d'un système vidéo et filma la scène qui fit ensuite le tour du monde. Ce que des millions purent voir, quelques minutes après, valait largement ce que des producteurs de films cyniques enfournaient dans des salles avec des effets spéciaux au coup faramineux. Car ce que l'on vit fut l'élan spontané d'un homme qui, n'écoutant que son courage, obéissant au meilleur instinct d'empathie que l'être humain puisse avoir, fit passer sa propre vie au second plan. Cet homme, ce héros moderne, se mit à grimper à main nue l'immeuble et d'étage en étage parvint jusqu'au quatrième qu'il franchit d'un dernier bond avant d'attraper l'enfant par le bras qu'il souleva comme une plume pour le mettre à l'abri sur la plateforme. Derrière la balustrade de verre, verre fumé, si ma mémoire ne me joue pas de tour. La foule hurlait de soulagement, applaudissait et pleurait. On se faisait des accolades comme lorsque la France mit à terre le Brésil en 1998. Un frisson parcourut les réseaux sociaux et l'homme providentiel fut surnommé Spider-Man. Bon, quand on apprit qu'il s'appelait Mamoudou Gassama, cela n'entama en rien l'enthousiasme de la multitude pour cet homme qui avait sauvé un enfant au péril de sa vie. Il disait que Dieu l'avait inspiré et qu'il aimait les enfants. On découvrit alors, merveilleux, qu'il était sans papier. L'aubaine était trop belle pour le président de la République opportuniste qui invita M. Gassama au palais de l'Élysée, le naturalisa et le fit pompier, ce qui correspondait pile poil à son tempérament. Alors, cette histoire extraordinaire, vraie ou fausse? Vraie ou fausse?
Oh, c'est pas possible, faux, ouais, c'est faux.
Mais non,
c'est faux.
Elle est vraie. Juste... Oh, là, là, là. Aussi vraie et extraordinaire que l'histoire de Moussa Camara, guinéen, acrobate et demandeur d'asile parce que dans son pays, son compagnon, car il est homosexuel, a été brûlé vif sous ses yeux. Celui-ci, ce Moussa-là, l'État n'a pas jugé bon de le sauver. Oh, mais que n'a-t-il fait jouer ses dons d'acrobate en souvent par exemple un panda. Eh oui, une histoire extraordinaire permet souvent d'en cacher une autre.
Hippolyte Girardot, merci beaucoup. Bravo Hippolyte.
Merci à Pierre Bellemare qui nous a tous éduqués.
Eh oui. Vous êtes sur France Inter, respirons dans le jardin d'Étienne Dao.
Thank you.
17h37 à Morteau. Et la Madeleine Proust va y jouer les 16 et 17 juin à Morteau, car c'est là où elle a commencé en 82, où vous pensiez jouer deux fois, vous avez joué 20 fois. C'est Lola Semonin qui est avec nous sur France Inter jusqu'à 18h. Et il y a à côté, celui qui est...
Il y a une filiation.
Il y a une filiation évidente.
Ouais, alors aujourd'hui, je suis désolé, mais j'ai pas trop le cœur à rigoler. On est tout proche de la guerre civile, je vous le dis comme je le pense. L'amendement Chocolatine a été refusé à l'Assemblée nationale. Je vous le dis avec beaucoup de gravité, évidemment. C'est un amendement qui avait été déposé, entre autres, par le député Les Républicains Aurélien Pradier pour que l'appellation Chocolatine soit protégée et que cesse enfin cette guerre fratricide avec l'appellation pain au chocolat. Des dizaines de morts, hein, je le rappelle quand même, essentiellement des diabétiques, mais ça compte quand même. Alors, dans le sud-ouest, la résistance s'organise, des barricades de pâtes feuilletées ont été dressées. On lance du gluten sur des CRS complètement perdus, hein, qui répondent forcément par des pains dans la gueule, ou des gueulatines. Voilà, alors ça dépend de quel côté on se place. Alors, comme je sens que vous allez vous moquer, hein, je vous sens bien moqueur. J'ai contacté Monsieur Pradier pour avoir des précisions et surtout rappeler le caractère primordial de cet amendement. Je le rappelle, l'amendement Chocolatine.
Ce qui est amusant, c'est que quelques minutes, j'avais mes concitoyens parisiens en téléphone qui me disaient tout le mal qu'ils pensaient du sujet, qui me disaient que c'était un sujet très secondaire et qui a passé près de 40 minutes à m'en parler. Je dis quand même, pour un sujet secondaire.
Ah ouais, moi je fais même une chronique dessus, donc c'est que c'est pas secondaire. Hein.
Non, c'est pas secondaire, vous ne traitez que de sujets tout à fait essentiels.
Ah bah évidemment.
Convaincu que c'est un sujet essentiel.
Voilà, c'est important de le rappeler quand même, je ne traite que de sujets essentiels, je vous le rappelle tous les jours. Le championnat du monde de vitesse de tricot, voilà, le changement de nom du tournoi de la boule de fort à Sablé-sur-Sarthe, c'était moi aussi. Voilà, disons que dès que la patrie est en danger, je suis là. Je suis un petit peu le Mamoudou Gassama d'un pays suspendu à un balcon, on peut le dire. Alors heureusement pour Aurélien, il a des soutiens chez ses amis députés.
J'ai beaucoup de collègues députés qui me font signe en me disant, ah oui, mais finalement, ton amendement, il permettrait de préserver telle spécialité dans le nord du pays. Ah. On parlait hier de la tarte au gros bord.
Ah, bah oui.
C'était du Pas-de-Calais, que je ne connaissais pas.
Ah, bah la tarte au gros bord, oui. Ouais.
Quand je découvre beaucoup de choses.
Ah, bah oui, alors plus exactement, on dit la tarte à gros bord. Hein, parce que, ouais. Faut être tout à fait précis.
Marlène était.
Oui, Marlène Schiappa. Ouais. Oui, c'est ça. Elle a pas tweeté pour l'instant, on attend. Non, mais soyons précis, parce que je vous rappelle qu'on parle avec un représentant du peuple.
Oui,
hein, une personne mandatée pour s'occuper des affaires importantes du pays. Les tartes à gros bord, par exemple. Voilà, les viennoiseries, la France, la France éternelle. Alors, le paradoxe, c'est qu'Aurélien, il est chez les Républicains. Et normalement, les Républicains, bah, c'est la libre concurrence, la loi du marché, pas le protectionnisme forcené. Alors, Aurélien, on nous avait bien dit pourtant que vous étiez libéral.
Si quelqu'un vous l'a dit, c'est profondément trompé.
C'est vrai, vous n'êtes pas libéral ?
C'est un vrai sujet parce qu'au sein de l'Assemblée nationale et au sein du groupe Les Républicains, il y a deux traditions qui sont en train d'émerger. Une qui est certainement une tradition libérale et puis une tradition qui est un peu différente, qui est notamment celle de la nouvelle génération à droite, qui est beaucoup moins libérale que certaines de ses aînés.
Vous voyez, comme une simple chocolatine peut briser un parti en deux, on n'est pas loin du chocolatine gate entre ce qu'on dirait la droite Rockefeller et la droite Jean-Pierre Pernaut. Il y a une ligne de fracture qui passe pile entre les deux barres de chocolat, de la chocolatine ou du pain au chocolat, je vous rappelle. Va falloir intégrer ça dans les cours de Sciences Po. Alors évidemment, cet amendement va également au-delà de l'appellation, puisqu'il s'agit aussi, bien sûr, de protéger un savoir-faire, le savoir-faire de la chocolatine artisanale.
Je suis convaincu aujourd'hui qu'on doit pouvoir, dans la dénomination, faire une différence entre un produit de viennoiserie surgelée et un produit fabriqué sur place.
Est-ce qu'il faudra un amendement pain au chocolat pour protéger le vrai pain au chocolat ?
Pourquoi pas ?
Et ben voilà, on y est, et c'est l'escalade. Et l'amendement Cancoyote, hein, proposé par la Madeleine Proust, l'amendement Pelachny, on pourrait aussi à ce moment-là. Il faut valoriser les régions. Et un amendement sur la maltraitance animale, parce que parfois on a un peu l'impression que c'est de l'enculage de mouches. Hein, on va être honnête, faut laisser les mouches tranquilles. Et puisqu'on parle de maltraitance, parlons de steak. A été également déposé un amendement pour que le steak de soja ne puisse plus s'appeler steak. Je vous ai dit, on parle vraiment de l'essentiel là aujourd'hui. Et ça, Aurélien, il est bien d'accord avec ça.
Les mots, ça dit beaucoup de choses. Pour moi, un steak, c'est un steak de viande. On peut tout à fait fabriquer et consommer des produits intégralement à base de soja. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, on peut pas tromper le consommateur.
Mais quand c'est marqué steak de soja, est-ce qu'on le trompe vraiment ?
Je sais pas. En tous les cas, un peu de clarification fait pas de mal.
Ok, bah alors on va être clair. la tomate cœur de bœuf, on en parle de ça ou pas ? Quand est-ce qu'on dépose un amendement cœur de bœuf ? Parce que moi, ça fait pas longtemps que j'ai pigé que c'était une tomate. Alors, je suis un petit peu con, c'est vrai, mais il y a confusion. Hein ? Un amendement bavette, parce que la bavette, ben, ça correspond plus à ce qui pend aux lèvres de Gérard Collomb. hein, quand il parle, qu'une pièce de viande, un peu de clarification ne ferait pas de mal. Et un amendement stop les conneries du lobby de la viande, parce que ça veut passer pour une défense de l'intérêt général, mais personne n'est dupe. Pour le reste, chacun ses goûts, hein, n'est-ce pas Aurélien?
Bah c'est peut-être pour faire passer le mauvais goût du steak de soja, ça passe mieux quand ça s'appelle steak.
Donc, ah voyez, là vous prenez position.
Je prends position parce que je suis pas un fan du soja. Mais je le redis, je suis très respectueux de ceux qui mangent du soja.
Évidemment, parce que quand même, les végétariens, il y en a de plus en plus et ils ont le droit de vote, donc on va pas se couper de ces cons-là. N'insultons pas l'avenir, faisons un petit peu de clientélisme un peu partout. Bon, pour un politique, la routine, ou plutôt la routine au chocolat.
Merci Guillaume Meurice, et je rappelle qu'en Belgique, nous avons résolu le problème en appelant ça une couque au chocolat. Et comme
c'est
réglé.
C'est encore plus le bordel.
En revanche, une barre ou deux barres, ça n'en a pas tranché.
Est-ce que Jean-François Copé connaît le prix de la chocolatine?
Ah, c'est ça.
Parce que c'est ça qui est pas évident.
Et ça paraît anodin comme sujet, mais ça ouvre plein de perspectives.
Lola Sébonin est en notre compagnie avec son personnage, la Madeleine Proust, et elle sera le 3 juin prochain à l'Olympia. La ministre de la Culture, elle s'est fixé un objectif, garantir une vie culturelle de proximité. L'accès à la culture a aussi ses zones blanches, où l'accès aux œuvres se résume souvent à moins de 3 km à une bibliothèque. Place à la décentralisation culturelle, et attention, là ça va dépoter.
Madeleine représente le 2-5. Wesh wesh. Allez Kamel, allez la famille. Bienvenue dans la cité du comté du vin blanc. Ici tout le monde a le droit de citer, qu'on soit jaune, black, beurre ou blanc. Que tu viennes du Jura ou du territoire de Belfort, que tu manges ou non du porc, gloire à celui qui percera le secret de la saucisse de ton mort. C'est une pique de mort.
C'est le rap de la Madeleine Proust. C'est un sujet qui sera décliné toute cette semaine dans La Croix, cette histoire de décentralisation de la culture et d'accès de proximité. Vous qui tournez depuis longtemps en région, qui habitez la région, qui connaissez bien le milieu rural, vous faites aussi ce constat de la difficulté, bien sûr, de l'accès de culture à proximité. Vous essayez d'y remédier. De quel œil vous voyez ça?
Moi, c'est un peu l'inverse, parce que quand j'ai commencé, j'ai joué énormément dans les villages de Franche-Comté et de Bourgogne au départ. Et là, pour fêter, quand j'ai voulu fêter les 30 ans de scène, je me suis dit, qu'est-ce qui ferait le plus plaisir au public? C'est de retourner jouer dans ces petits villages. Donc, la production vend le spectacle à des associations dans les villages, mais au tarif, avec un tarif particulier, selon le nombre de places, pour qu'ils puissent justement avoir accès à la Madeleine. L'amener à la porte des spectateurs. Et là, je veux vraiment leur rendre hommage, parce qu'il faut savoir que dans ce pays, les politiques en parlent très peu, mais il y a des millions de bénévoles qui travaillent dans des associations, donc gratuitement, puisqu'ils sont bénévoles, et qui sont le tissu de ce pays, et qui tiennent ce pays. Il n'y a pas que les entreprises qui tiennent ce pays dont on parle tout le temps.
C'est-à-dire que c'est eux qui se chargent d'essayer d'amener la culture et de la faire vivre.
Dans les villages, dans les petites villes, il y a des bénévoles, non seulement qui amènent la culture, mais aussi il y a toutes sortes d'associations au niveau social qui font les restaurants du cœur, qui aident des femmes battues ou des gens en difficulté.
Et d'un point de vue culturel, les communes jouent aussi beaucoup. On apprend donc dans cet article, il y a aussi une interview de Françoise Nyssen, on nous explique par exemple que ce sont essentiellement les communes qui financent la culture. S'il faut compter sur l'État, ils dépensent 139 euros par habitant à Paris-Île-de-France. Et seulement 15 euros pour le reste du pays.
Ah bah le mépris du parisianisme envers la province, il a toujours existé, il existe encore. Mais moi, quand je vois
c'est la centralisation, quoi, le jacobinisme, tout est à Paris.
Oui, bah c'est ça. Mais quand je vois ces gens dans ces villages, dans ces provinces, qui prennent quand même un risque financier parfois, et qui amènent de la vie dans leurs villages. Bon, déjà, je les salue vraiment. Mais aussi, moi, j'ai toujours été soutenue par la région de Franche-Comté. J'ai été soutenue par les communes, par les petites villes, par les villes. J'ai créé des spectacles à Belfort, à Besançon. Donc, la culture, elle est là quand même, il ne faut pas croire. Même à Morteaux, il y a 5000 habitants. Il y a un festival de hip-hop. Il y a des spectacles pointus qui viennent aussi.
Oui, les festivals permettent aussi d'accéder à toutes ces zones.
Quand tous les week-ends, on va dans les villes moins connues, enfin, d'ailleurs très souvent on ne connaît pas le nom avant d'y aller, les gens ils nous disent merci d'être venus jusqu'ici, comme si c'était pas une évidence, mais écoutez-moi tous bien, c'est notre métier que d'aller chez vous, c'est pas à vous de nous remercier, c'est vous, merci de faire venir la culture là, parce que c'est vraiment ça le cirque de la culture, on prend notre chapiteau et on y va.
Hippolyte et Juliette, vous avez une réflexion sur la question?
Je pense que c'est très complexe, quoi, la politique de la culture dans un pays aussi important que la France, et évidemment que l'action culturelle en province, entre guillemets, est très importante, mais elle n'est pas la seule, quoi. C'est vraiment, il faut, en fait, ce que je crois, c'est qu'il faut que l'échange soit plus fort entre la capitale et la province. C'est plus ça. C'est
une des, on monte à Paris, nous, hein, faut pas.
Oui, c'est une des propositions aussi, c'est que les institutions culturelles
se délocalisent.
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Voilà pour ce sujet à 17h47 sur France Inter, en compagnie de Lola Semonin, la Madeleine Proust. Et à côté de vous, il y a Juliette Arnaud, dont on attend la chronique littéraire.
Et dans ma main droite, il y a un roman graphique qui s'appelle Cosmologie du futur et qui est signé Alessandro Pignocchi. Au titre, Cosmologie du futur, j'y vais pas. Ah merde, non. Pour bien rien comprendre, merde, non. Cosmologie, déjà il a fallu que j'ouvre un dictionnaire. Alors c'est la science des lois physiques de l'univers. Je vais capter un beignet, moi. Sauf que, il y avait la couverture, qui est une aquarelle, une ville que l'aurait en partie envahie, mais sans que ça te cause une sensation d'inquiétude. Il y a une partie d'un bâtiment genre haussmannien qui surnage, il y a une pirogue pour rejoindre d'autres bouts de bâtiment, des nénuphars se sont installés, des silhouettes humaines trinquent dans une douce lumière de fin de jour, et au premier plan, accrochée à une branche, une mésange. Et ça, c'est le personnage principal, ou plus précisément le cœur antique personnage principal de ce roman graphique, les mésanges. C'est des petits oiseaux actifs et sociables, j'ai trouvé ça dans le dictionnaire aussi, mignon, trop mignon, et super badass sous la plume d'Alessandro Pignocchi. Dans la vraie vie, les mésanges, ça sonne comme ça. Vous avez déjà entendu, si vous avez déjà entendu ce bruit, ça veut dire que vous avez déjà entendu des mésanges. Dans la BD, avec Alessandro Pignocchi, ça sonne comme ça. Il y a une mésange bleue, noire et bleue, blanche, qui dit « c'est triste quand même ». Celle orange et bleue, elle répond de quoi ? Je l'ai retrouvé mon shit hier soir, je t'ai pas dit ? La première, non mais moi j'y ai cru à Mélenchon au second tour. La seconde, imperturbable. J'ai un écureuil, il l'avait planqué pour me faire une blague. J'ai défoncé. Ouais, c'est un peu de la science-fiction. Imaginez, et c'est l'idée même de Cosmologie du futur, que les dernières élections présidentielles ne se soient pas du tout passées comme elles se sont passées. Imaginez que les questions du journaliste de France 2 se soient par exemple devant les candidats. Quid de l'anthropophagie rituelle ? Se percevoir comme une nourriture potentielle incite à envisager les interactions avec les plantes et les animaux comme un vaste réseau d'échanges en impliquant que des alter-égos. Bref, qui mange-t-on, messieurs les politiques ? Et les candidats de disserter là-dessus ? Des candidats qui, de toute façon, n'ont plus super envie d'être candidats ou même présidents, ils préféreraient, et ils le disent eux-mêmes, creuser une mare argileuse ou faire une rando dans les Alpilles. De la SF, vous dis-je. Là-dessus, tu mélanges Trump, Merkel, Macron et Pujadas, qui eux-mêmes sont animés des mêmes et nouvelles surprenantes passions. Et tu finis par trouver Avengers finalement super réaliste. Quelle tronche invente ça ? Eh ben un type qui, dès l'enfance, était doué pour et le dessin et la biologie. Alors que faire des études secondaires en France, en tout cas, on le sait, ça se résume en gros à apprendre qu'il y a deux sortes de gens sur Terre, ceux qui sont bons en sciences et ceux qui sont bons en Proust. Bref, celui-là, Alessandro Pignocchi, il c'est un ancien chercheur en sciences cognitive et en philosophie, et dessinateur, peintre même, hein. Enfin moi je dis peintre. Et il réussit ce truc super acrobatique de la BD belle, poétique, qui t'invite à réfléchir, et attention, triple loot piqué, drôle, pour causer d'un thème qui l'est moins, vu l'état de notre terre, la nature. Le concept même de l'idée de nature, que la pensée occidentale définit toujours par opposition à celle de culture. Alors pour essayer de vous expliquer ça, enfin moi ce que j'en ai compris en tout cas en un slogan, c'est un des slogans qu'on a beaucoup vu à Notre-Dame-des-Champs. Il est le suivant, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. C'est ça l'idée essentielle, c'est qu'il y a une inadéquation de notre modèle de nature. Alessandro Pignocchi, c'est un genre de disciple de l'anthropologue Philippe Descola, lui-même élève de Lévi-Strauss. Descola, il était célèbre pour ses recherches en Amazonie équatorienne auprès des Indiens Jivaro. Il y en a aussi des Indiens Jivaro dans la BD. Ils sont rejoints par Marcel Proust, devenu adepte de la scarification. Quoi ? Oui, ben je sais, c'est pas possible. Marcel est mort et son asthme lui aura interdit de pratiquer ce genre de trip. Mais quoi ? Laissez-vous faire, je vous l'intime. Laissez-vous cajoler par les aquarelles répétées, fixes, hypnotiques de la cosmologie du futur. On n'est pas à l'abri que vous regardiez les mésanges, les pâquerettes et les rivières autrement pour le bien de tous. Merci. Bisous, merci.
Juliette, qu'est-ce qu'on demande à son libraire alors ?
Alors on lui demande la cosmologie du futur d'Alessandro Pignocchi, c'est chez Steinkiss. Si jamais vous n'avez pas les ronds pour vous l'acheter, Alessandro Pignocchi, il a un blog extraordinaire avec ses aquarelles et son propos sur la ZAD et compagnie. Et ça s'appelle Puntiche.
La ZAD Notre-Dame-des-Landes, car Notre-Dame-des-Champs, c'est un arrêt de métro.
Oh, punaise. Vous êtes là, hein.
Il y a une réflexion, pardon,
que
j'aime bien de la Madeleine. Elle dit, nous les paysans, on n'est jamais allés au théâtre parce qu'on a toujours été dans la culture.
Madeleine Proust, qui d'ailleurs se décline en livre parce que vous êtes écrivain et votre personnage, il vit en roman dans 3 tomes. Vous êtes en train de préparer le 3e et les 2 premiers. Il y a la Madeleine Proust, Une vie, année 39-40, sa drôle de guerre.
Quand j'étais petite, le premier, c'est quand j'étais petite, puis le deuxième, c'est moi.
Et le deuxième, 1925-1939, quand j'étais petite. Voilà. Ah, c'est le contraire.
Voilà,
d'accord.
Voilà.
Ah, bah oui, c'est chronologique.
C'est ça que vous aviez pas compris, quel rapetissait.
Non, je dit, mais c'est Benjamin Button. J'essayais de chercher une image pour dire chronologie, mais je
me suis dit, l'être original, elle commence par la guerre 39-40, et puis elle fait, bon, je me suis dit, bon. Et le troisième tome, ce sera
L'Antiquité, je pense, non
Oui, ça va, d'accord. Très bien. Allez, on passe au troisième sujet. On attend le troisième tome. En tout cas, c'est aux éditions Pygmalion.
Il s'appelle Sous la botte. Ça me vient.
Allez, la claquette chaussette s'étant hissée sur les podiums. Plus rien ne s'opposait au port du peignoir pour les soirées en ville. C'est Lopes qui nous raconte comment la serviette éponge s'est échappée de la salle de bain pour défiler sur ses podiums, les tapis rouges et aussi les vidéoclips des stars de la pop. Alors que se passe-t-il dans la tête d'un styliste qui décrète que la nouvelle robe de soirée, c'est la serviette éponge ?
Allez, modèle numéro 3. C'est un imperméable d'intérieur. En lycra basique. Non, chez Goody, on aime bien que les hommes que l'on habille soient élégants à l'intérieur et à l'extérieur. Traduisez. Bon, alors, qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent savoir le prix ? Vulgaire ? Pour une petite babiole à 12 000 francs ?
Élie Kakou, bien sûr. Donc, dans l'Obs, il y a notamment cette photo de cette chanteuse Rita Ora, qui est venue en novembre dernier pour les MTV Europe Music Awards, en sortie de bain. Bon, elle est un peu designée, hein, et même en serviette nouée sur la tête, comme quand on sort de la douche. Alors moi, je me disais, vous qui montez sur scène aussi, qui avez un peignoir, je me dis, quand vous voyez que le peignoir est à la mode, ça vous fout par terre votre personnage, ça ?
Je me dis que...
Proust, elle est hype.
Attention, sauf que c'est une robe de chambre matelassée des années 70 avec des ramages. Oh, et je suis en train de me dire que, comme je vais arrêter, on va la mettre aux enchères, elle va valoir une blinde.
Au profit de quoi alors,
des agriculteurs ? Profit personnel de moi-même.
une réflexion sur ces folies.
Ça, c'est la mode de BSK, hein, c'est sûr.
Bah, c'est certain.
Ça vient de là quand même, au départ.
C'est quand même un truc de gros dégueulasse, hein, parce que c'était Hugh Hefner aussi, le patron de Playboy, qui était tout le temps en habit d'intérieur.
Ouais.
C'est confort, hein. Enfin, moi, oui, je Alex aussi, en fait, contre l'idée.
Mais c'est comme son nom l'indique, c'est à l'intérieur.
Quel réac, c'est Juliette Arnault d'un coup là.
Non, c'est pour le plaisir des yeux.
En tout cas, il n'y a pas de trou dedans comme dans certains de vos vêtements.
Oh là là, ce débat.
L'idée qu'on vienne sur les tapis rouges, etc., en serviette éponge. Bon, c'est
l'éponge. Moi, c'est pas agréable pour la peau. Hein.
Ah,
bah, moi, je veux bien une belle robe de chambre en satin.
Ah, ben bah, voilà, mais bien sûr.
Et voilà.
Nous, là, c'est pour ça qu'on comprend pas ce chic. Alors, parce que ça fait partie de l'attirail de l'hôtel de luxe. Et donc, il y a notamment les rappeurs qui trouvent que c'est un indice, un signe ostentatoire de richesse.
Alors, on attend les claquettes des hôtels de luxe. Parce que là, ça amène quelque chose d'intéressant.
Bon, allez, avec la Madeleine Proust, si on passe au sketch.
Un sketch de fin d'émission. Ah. Attention, on sort les lunettes. Sketch arrive. Où sont les lunettes? On fait un appel. Hashtag les lunettes.
Alors, expliquez-nous le sketch en attendant,
sketch,
Alex.
Le sketch, c'est hommage à Pierre Bellemare, évidemment. Oui. On va faire du télé-shopping. Guillaume Meurice va jouer avec son idole. Guillaume, vous êtes Pierre Bellemare, la Madeleine Proust. Vous êtes Maryse. On y va. Musique mémorable. Chers amis, bonjour. Bonjour Maryse.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Bienvenue dans Politique Shopping.
Alors l'émission qui propose de vous refourguer des vieux politiciens ringards.
De très beaux articles, Maryse.
Ok, et puis quel est le premier, Pierre ?
Alors, le premier, on vous propose un extraordinaire, François Fillon.
Oh ! Et il est où, alors ?
Il est caché derrière ses sourcils.
Ah, et puis pour combien ?
Et un François Fillon pour la somme extraordinaire de 595 000 euros.
Oh, seulement ? Bah, c'est pas le... seulement ? Oh, bah, dis seulement. C'est même pas le prix d'une heure de travail fictif de la Pénélope.
C'est une affaire en or, je vous le dis, Maryse.
Mais qui c'est qui voudrait d'un François Fillon ?
Nous sommes le 1er février 2017.
Ça y est, ça le reprend.
Quand tout à coup se déclenche le Penelope Gate.
Pardon, Pierre, mais ici, hein, c'est pas l'émission d'une histoire extraordinaire. Hein.
Saurons-nous un jour qui a assassiné, non pas François Fillon, mais comme il l'a si bien dit, à travers lui, la République.
Ah, ça y est, il bloque Pierre. Il est temps de passer au deuxième article.
Ah oui, Maryse. Alors, à présent, nous vous proposons un très bel objet de collection.
Ah, c'est un Jacques Chirac, non?
Non, 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 non. Bernadette serait trop contente de s'en débarrasser.
Ah, c'est un Lionel Jospin.
C'est un Lionel Jospin, c'est gagné. Voici la démonstration de ce très bel objet de collection.
J'ai décidé de me retirer de la vie politique.
Oh, voilà une magnifique phrase de vainqueur.
Et tout ça pour le prix exceptionnel, Maryse, d'un euro symbolique.
C'est pas un peu trop cher, ça?
J'ai décidé de me retirer de politique shopping.
Ah, c'était rapide. Alors passons au troisième et dernier article exceptionnel que je vous laisse annoncer, ma chère Maryse.
Une affaire miraculeuse, la Christine Boutin.
J'ai décidé de me retirer de Christine Boutin.
Oh là! Oh là 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 là.
Tout Jésus!
Vous pouvez m'appeler Pierre, hein, madame.
Seigneur Jésus-Marie-Joseph.
Elle a beaucoup d'amis, donc. Le Jésus, le Marie, la Marie, puis Joseph. Et puis alors, c'est quoi les avantages de cet article?
Absolument aucun, Maryse.
Ah bah, je me disais aussi bien.
Ainsi se termine déjà le Politique Shopping.
Eh bah, nous vous retrouvons demain.
Oui, pour un très bel objet de haute fidélité, le Manuel Valls.
Merci les
c'est
amis.
C'est un beau duo, quand même.
Merci à Lola Sémonin, la Madeleine Proust, que vous pouvez retrouver donc à l'Olympia le 3 juin prochain, mais aussi à Morteau les 16 et 17 juin. Et puis on rappelle aussi qu'aux éditions Pygmalion, il y a La vie de la Madeleine Proust, une trilogie qui vous attend. Merci beaucoup Lola et merci pour les saucisses de Morteau. Oui. Et on salue nos
merci
auditeurs
à vous,
de
merci
Franche-Comté.
À vous pour votre
bonheur.
Et voici le mot de la fin. Pierre Bellemare était un maître de la radio, alors on va lui demander un petit conseil.
Un peu d'astuce, un peu d'attention, et je crois que tout se passera bien pour vous.